RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Bonsoir à tous, bonsoir Fabrice.
Bonsoir Christophe.
Ravi de vous retrouver comme chaque samedi.
De même.
Cette semaine, on va s'intéresser à la bioéthique. L'homme du 21e siècle sera-t-il seulement réparé, amélioré, trié et hybridé? Des questions qui se posent aujourd'hui, alors que le transhumanisme promet de grandes mutations qui suscitent critiques, inquiétudes ou espoirs. Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons le biologiste Jacques Testard, père scientifique du premier bébé éprouvette, auteur de très nombreux ouvrages faisant référence, dont Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes, publiées d'ailleurs aux éditions du Seuil.
Et oui, Christophe, et Jacques Testard qui nous fait véritablement l'honneur de venir dans notre émission. On le connaît, directeur de recherche honoraire à l'INSERM et président d'honneur, ça c'est important, de Sciences Citoyennes. On reçoit également le chercheur engagé, le lanceur d'alerte qui nous met aujourd'hui en garde contre les avancées incontrôlées de la science, tirant la sonnette d'alarme quant au choix engageant l'avenir de notre espèce. Et oui, des caps importants sont en effet déjà franchis, des décisions fortes en train d'être tranchées. Et dans les prochaines décennies, des ruptures technologiques sans précédent vont sans doute rendre possible une transformation radicale de l'humain. Alors à quel monde cela nous prépare-t-il? Avec ou sans l'avis demandé aux principaux intéressés, à savoir les citoyens? C'est ce qu'on va voir tout de suite aux côtés de Jacques Testard dans un entretien forcément passionnant et sans langue de bois.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Jacques Testard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur RCFM. Il y a vraiment urgence à s'intéresser à ces questions de modification de l'humanité?
Oui, il y a urgence parce que les techniques sont déjà en place. Elles sont utilisées pour le moment à une échelle modeste. Mais quand on parle de modification de l'humanité par le biais de la génétique, il y a deux grandes technologies. Il y a celle dont on a beaucoup parlé récemment à cause du chercheur chinois qui a modifié des embryons et qui a fait naître des petites filles. Bon, pour moi, c'est pas encore... Enfin, il faut évidemment y réfléchir beaucoup, et moi, je suis complètement hostile à ces techniques-là, mais ça demande des discussions. Mais je crois que si on veut être sérieux, il faudra des années avant d'avoir la compétence technique de pas faire de bêtises qu'on n'aurait pas prévues, parce qu'on provoque en même temps des mutations, des choses imprévues. Donc ça, c'est une voie dont on parle beaucoup dans les médias. Et il y en a une autre dont on parle jamais, mais qui est déjà utilisée depuis plus de 20 ans, dans tous les pays où on fait la fécondation in vitro, c'est-à-dire quasiment partout dans le monde, c'est le tri des embryons, la sélection. C'est-à-dire on modifie rien, mais comme on a beaucoup d'embryons produits par fécondation in vitro, eh bien on les identifie génétiquement, et on garde un embryon qui est plus convenable que les autres. Alors pour le moment, et en France surtout, il y a quand même une réglementation, c'est surtout pour éviter des maladies graves, mais enfin on voit que ça dérive de plus en plus, et il y a déjà des pays où c'est pour des problèmes esthétiques, le choix du sexe, enfin n'importe quoi, aux États-Unis par exemple. Donc il y a urgence, parce que c'est des techniques qui se développent, et mon expérience m'a montré que en matière de technologies nouvelles, on ne fait qu'être de plus en plus permissif. C'est-à-dire, quand on autorise quelque chose, on revient pas en arrière. Or, actuellement, les pratiques et les législations autorisent énormément de choses, et je pense que c'est assez grave.
Oui, vous parliez, Jacques Testard, et on connaît effectivement votre expérience sur la question du choix du sexe, par exemple, aux États-Unis. Également, hein, on vous a entendu sur ce sujet, par exemple, des enfants qui louchent en Angleterre, qu'on va trier dès la naissance, hein, pour pas avoir ce gène-là.
Avant
la naissance, bien sûr, pour pas que ce gène soit diffusé. On est sur un eugénisme mou, consensuel, démocratique, vous utilisez ces mots?
Oui, je l'appelle comme ça, parce que pour le différencier de l'eugénisme classique...
Ça peut faire peur, ce mot, quand même, il est dur.
Oui, mais il est dur, mais c'est parce que le sujet est dur. Il y a des enjeux importants. Donc, d'abord, je parle pas de l'eugénisme nazi, mais je parle de l'eugénisme qui a été inventé à la fin du 19e siècle, et qui s'est répandu dans les pays démocratiques avant qu'Hitler arrive au pouvoir. Donc il était en Allemagne, il était en Angleterre, en France, aux États-Unis, partout. Et on a stérilisé des centaines de milliers de personnes parce qu'on pensait qu'elles n'étaient pas convenables, pas aptes à engendrer des enfants de qualité. Donc ça, c'était dans les pays démocratiques. C'est de cet eugénisme-là que je parle. C'est pas de l'extermination de gens pour leur appartenance à un groupe ethnique, religieux. Bon, ça, c'est des aberrations totales. Mais je parle de l'eugénisme médical. Même celui-là, il est redoutable. Bon, et on n'emploie plus le mot parce que le nazisme a un peu, a nettement aggravé les choses. De façon dramatique. Mais ce qui est nouveau dans l'eugénisme d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas, par rapport à l'eugénisme du début du XXe siècle, c'est qu'il n'est pas vraiment autoritaire. C'est-à-dire que les gens sont libres, ils peuvent accepter ou pas, et si on parle de ce qu'on peut faire à l'embryon, c'est les parents qui décident. On ne va pas obliger les parents à faire quelque chose à l'embryon. Mais malgré tout, on se rend bien compte que les gens qui par ailleurs sont conditionnés à être normaux, à avoir une vie normale, une procréation normale et à souhaiter des enfants normaux, il y a une pression sociale très forte qui fait que le choix des parents, c'est le choix de la société. Mmh. Et c'est là qu'on retombe dans l'eugénisme.
Et ça veut dire aussi, et on vous lit hein, sur ces questions-là dans différents ouvrages, notamment le dernier, qu'à un moment donné, c'est un appauvrissement de l'espèce peut-être aussi, ce tri avec à chaque fois les meilleurs de la classe peut-être, les plus grands, les plus beaux, les plus forts, c'est ça le problème ?
Ben, c'est pas tellement les plus grands, les plus beaux, les plus forts, c'est pour le moment ceux qui auront le meilleur génome, et on pense beaucoup aux pathologies, mais vous l'avez cité, on peut parler aussi du strabisme, on peut parler du sexe, on peut parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec des pathologies, du moins le strabisme c'est pas une pathologie dramatique, mais c'est effectivement de l'ordre de la pathologie. Mais c'est effectivement tout ça se développe très vite et que la diversité va diminuer dans l'espèce humaine au fur et à mesure que ces techniques vont être disponibles. Si on imagine par exemple que dans tous les pays développés et bientôt dans les autres peut-être, on va pratiquer la sélection des embryons sur des critères qui sont donnés par la science médicale et génétique, c'est-à-dire des critères qui sont univoques, qui sont les mêmes partout. Donc on va vers la conformation à une espèce de modèle théorique de l'homme normal qui se répandrait sur toute la planète et qui, éventuellement, en très peu de temps, en quelques dizaines d'années, peut modifier complètement le génome humain en l'appauvrissant puisqu'on aurait éliminé un tas de gènes dont on pense qu'ils sont défavorables.
Et donc, pour vous, c'est véritablement, hein, Jacques Testard, là, l'urgence sur ce tri, je dirais, avant la naissance, plutôt que finalement toutes ces promesses du transhumanisme qui font peur ou rêver, des puces intégrées au cerveau, des greffes de téléphone portable plutôt que de l'avoir à la main. Enfin bref, ça, c'est moins urgent, ces choses-là.
Pour moi, ça fait partie du transhumanisme. Ça fait partie de la volonté d'aller au-delà de l'espèce en l'améliorant, entre guillemets, c'est-à-dire en lui donnant des caractéristiques qu'elle n'a pas vraiment aujourd'hui, et ça fait partie. Et la sélection des embryons ou la modification plus tard des embryons humains fait partie de ça. Pourquoi je dis qu'il y a urgence ? C'est parce qu'on en fait de plus en plus de ces tris d'embryons dans tous les pays, de plus en plus, et qu'il pourrait y avoir un moment où on va le faire systématiquement à tout le monde. Et se met en place une réglementation et des possibilités techniques qui laisse penser que peut-être dans 10 ans, ça, on se reproduira plus dans un lit, mais on fera ces bébés au laboratoire.
Jacques Testard, qui peut dire alors halt, stop ?
Ah bah, qui peut dire ? Il n'y a que les citoyens, je pense. Parce que c'est pas les praticiens qui ont un intérêt, ils sont jugés partis. Les comités d'éthique, bon, ils peuvent toujours dire quelque chose, mais nulle part ils ont une voix. Ils ne peuvent avoir une voix exécutive, ils sont consultatifs. Les réglementations qui sont établies par les gouvernements dépendent beaucoup des pressions des praticiens, des industriels qui vendent du matériel, des machines, des milieux de culture, toutes sortes de choses. Donc il y a des intérêts aussi financiers là-dedans, en dehors des intérêts idéologiques. Donc qui peut décider de ça ? Pour moi, c'est seulement des procédures démocratiques de choix que, à nous, à Sciences Citoyennes, on appelle les conventions de citoyens, et qui reposent sur la formation complète et contradictoire, c'est-à-dire avec toutes les données du problème pour et contre, d'un groupe réduit d'une vingtaine de citoyens tirés au sort, lesquels vont réfléchir à partir des informations en étant confrontés à des experts variés et vont écrire eux-mêmes un avis sur la question. Voilà comment, je pense, on pourrait traiter ce problème, mais il faudrait le faire évidemment dans le monde entier, puisqu'on a déjà du tourisme médical Chaque fois qu'on interdit quelque chose en France, les gens vont le faire à Bruxelles ou à Barcelone.
On parle bioéthique ce soir dans C'est votre jour de science avec notre invité, le biologiste Jacques Testard.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think so dumb, Lord heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people out of love, some people think I can solve. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
C'est votre jour de science, l'expert.
Jacques Testard est avec nous cette semaine, le biologiste. On parle avec lui bioéthique, transhumanisme. Jacques Testard, vous nous expliquiez avant la pause musicale que c'est un comité de citoyens de s'emparer de ces questions. Alors, est-ce qu'on peut faire tout de même le poids face aux lobbies qui poussent pour le transhumanisme, notamment aux États-Unis?
Oui, bah effectivement, sinon, si c'était facile, on l'aurait déjà fait peut-être.
Oui.
Mais c'est comme pour tout, hein, c'est comme les pesticides qu'on n'arrive pas à interdire, les pollutions en général. Effectivement, c'est très difficile et ça marche ensemble. Moi, je pense qu'il peut y avoir que des régulations internationales, parce que faire comme on veut faire en France des lois de bioéthique, bon, bah c'est joli, quoi, mais ça n'a plus aucun sens. Maintenant, les gens vont ailleurs, et puis finalement, le comité d'éthique lui-même dit, bah puisque ça se fait à l'étranger, pourquoi pas le faire chez nous? Donc ça devient un argument. Ça veut dire qu'il faut effectivement un nivellement mondial minimal des choses qu'on autorise et qu'on interdit. Et pour avoir ce nivellement-là, il faudrait que l'ONU s'implique. Bon, tout ça, c'est très lourd à remuer, j'ai pas trop d'illusions, mais quand on me demande qu'est-ce qu'il faudrait faire, bah oui, c'est ça.
Juste Jacques Testard, parce que tous nos auditeurs n'ont pas forcément en tête un petit peu les problématiques étudiées par les lois de bioéthique en France. Ce sont quoi les questions fortes débattues actuellement en France ?
Ah bah les questions débattues, bah il y a la fin de vie, hein, qui est un des problèmes importants. Il y a les greffes d'organes, donc les dons d'organes. Il y a la procréation assistée, je trouve que c'est les problèmes principaux. Hein. Mais le comité d'éthique parle aussi, commence à parler de l'intelligence artificielle, de choses comme ça. Et il a raison, parce qu'il faut en parler avant que ça existe vraiment. Mais ce qui est très net, c'est que depuis quelques années, le comité d'éthique est beaucoup moins sévère vis-à-vis des innovations et a tendance à ratifier assez vite tout ce qui se fait pourvu que ce soit utilisé chez les voisins. Donc ce comité, finalement, ne joue plus vraiment son rôle de frein à des recherches qui pourraient être préjudiciables à l'espèce.
Et quand vous parlez de préjudice à l'espèce, est-ce que c'est vraiment aller dans 1000 ans que des choses un petit peu bouleversantes peuvent se passer au niveau médical et technologique, bien sûr, et scientifique à l'appui de l'humain, ou est-ce que ça peut être vraiment demain, après-demain, éventuellement vécu dans ce siècle par nos propres enfants, des modifications majeures ou saisissable tout ça?
Non, c'est dans ce siècle, tout ça, c'est dans ce siècle. Mais à condition aussi qu'on continue d'avoir les moyens, le luxe de développer des technologies qui sont pas indispensables, alors que la survie des humains est questionnée par exemple, les changements climatiques. Vous voyez, il y a une contradiction, parce que d'un côté, on commence à se rendre compte que le monde va à sa perte, avec le changement climatique, que c'est quelque chose de dramatique. On parle de catastrophe, d'effondrement, de collapsologie. Enfin, il y a un tas de... Aujourd'hui, ça devient un sujet d'actualité. Et tout ça, c'est dans quelques années, on y voit déjà les effets des changements climatiques. Mais ils seront beaucoup plus graves, avec des régimes de sécheresse, d'inondation et tout ce qu'on veut, dans les années qui viennent. Et c'est évident que dans 30 ans, on sera plus sur la même planète physiquement. Mais en même temps, ce que développent les transhumanistes, c'est de faire en sorte qu'à la même époque, c'est-à-dire dans 30 ans, on ait changé complètement l'espèce humaine, avec l'idée de l'adapter à une Terre qui est devenue invivable. Donc c'est un peu audacieux. Moi, je me demande si ces promesses-là, tout en dehors du fait que beaucoup sont complètement aventureuses et ne peuvent pas arriver, comme l'immortalité, des choses comme ça, bon, c'est vraiment n'importe quoi. Mais de toute façon... on pourra pas se permettre le luxe de travailler, parce que c'est des recherches qui coûtent très cher quand même, de travailler là-dessus, alors qu'il y aura des urgences qui seront provoquées par les modifications climatiques. Vous voyez, il y a une espèce de développement comme ça, parallèle, de choses qui se contredisent. Et je pense que les changements climatiques vont l'emporter, et que les gens vont, c'est pas qu'ils vont devenir raisonnables, c'est que quand ils n'auront plus rien à bouffer, ils vont pas se demander s'il faut choisir le sexe de son bébé.
Ouais, les choix vont s'imposer à nouveau. C'est intéressant d'écouter ce propos, sans langue de bois, on l'a dit, avec une vraie clairvoyance, surtout un retour, une expérience sur la science qui parle pour vous. L'humanité à deux vitesses, du coup, dans le climat ou dans ces sciences, cette technologie sur le corps de l'homme, on est sur plus de deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté l'augmenté qui pourra s'en sortir et le vulnérable, mortel, peu puissant qui va mourir avant tout le monde.
Oui, alors le deuxième que vous avez nommé, c'est nous, quoi. Nous, et que les transhumanistes appellent le chimpanzé du futur.
Sympathique. Ils sont sympathiques pour eux.
Ça, c'est nous. Mais de l'autre côté, il n'y a pas un profil transhumaniste défini. C'est-à-dire, on n'est pas à deux vitesses. On est à une infinité de vitesses, progressivement, parce que il y aurait des individus qui seraient améliorés pour ceci, cela, mais ils seront encore les chimpanzés de ceux qui vont venir après et qui seront davantage améliorés. Et tout ça, ce télescope, ça prend pas plusieurs générations dans leur esprit. Des transhumanistes, tout ça, ce télescope, donc c'est une humanité à vitesse infinie. C'est-à-dire que chacun devient presque une espèce, quoi. C'est un système complètement fou, heureusement qui repose pas sur grand-chose, mais malgré tout, quand même, pour ce qui est des technologies, par exemple, de l'informatique, des actions sur le cerveau, des choses comme ça, il y a une faisabilité, c'est sûr.
Finalement, Jacques Testard, qui sont les fameux transhumanistes ? Est-ce qu'ils sont nombreux ?
Écoutez, ceux qui se réclament du transhumanisme, en France par exemple, sont pas très nombreux, mais commencent à sortir du trou. Hein. Ils font leur coming out actuellement. Donc, aux États-Unis, ils l'ont fait il y a longtemps, puisque c'est de là-bas que vient le mouvement. Donc, depuis 20-30 ans, il y a des gens qui se proclament transhumanistes sans problème. Chez nous, ça arrive un peu plus tard, mais ça arrive malgré tout. Et même des gens qui se réclament pas du transhumanisme travaillent à des technologies qui vont dans le même sens que le transhumanisme.
Pas quand même, Jacques Testard, dans les labos français, ne nous dites pas ça. On est quand même beaucoup plus précautionneux, non?
On est plus précautionneux, c'est-à-dire qu'on dit pas qu'on va changer l'homme, mais on dit qu'on fait des recherches. On fait des recherches pour mieux comprendre comment fonctionne ceci, cela. Donc on veut modifier l'ADN, par exemple, cette molécule qu'on a tous dans nos chromosomes. On veut lui donner des possibilités nouvelles en ajoutant, il y a 4 bases qui permettent, avec un code savant, de fabriquer des protéines indispensables à la vie. On veut ajouter plusieurs bases. Et actuellement, il y a des travaux en France aussi là-dessus. Pas seulement aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Angleterre. Il y a des travaux partout. Donc là, on est quand même dans la modification du vivant, même s'il n'est pas question de faire naître un bébé l'année prochaine. Malgré tout, on est en train de se donner les moyens de changer complètement la norme. Et donc, je pense que la France n'échappe pas à ça. Sur l'intelligence artificielle, c'est pareil, on fait plein de travaux. Et le but annoncé par le gouvernement et nos autorités, c'est d'être compétitif avec ça. C'est-à-dire de devenir la nation start-up. Bon, ça dit tout. Ça veut dire qu'on pose aucun problème d'éthique ou de morale. Il faut faire comme les autres et essayer d'avoir notre place dans la compétition. Bon, c'est un choix politique, mais on peut en faire d'autres.
Et vous, Jacques Testard, le trappeur contrarié quand vous étiez petit, qui s'intéressait beaucoup aux animaux, aux plantes. Juste avant, vous nous l'avez dit, quand on préparait l'émission, tiens, je finis une discussion, on était sur les OGM moustiques. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous nous en dites deux mots, parce que ça aussi, ça vous intéresse.
Oui, c'est les moustiques qu'on est en train de balancer dans la nature, dans plusieurs pays du monde, en Amérique du Sud, en Afrique, par exemple. Donc là, il y a un programme au Burkina Faso, et il y a des militants associatifs locaux qui essayent de mobiliser la population. Il s'agit de stériliser les moustiques de telle façon que, c'est des techniques très complexes, de telle façon que ça va se propager, si vous voulez, comme une maladie contagieuse, et que très vite, l'espèce même, des moustiques qui transmettent le paludisme en l'occurrence, devrait s'éteindre. Mais c'est comme ça qu'on fait de la mauvaise science finalement. C'est-à-dire, on a une cible et on dit, si on tape là, ça fait ça. Mais c'est exactement comme on fait dans toutes les modifications génétiques, ou même éventuellement avec le cerveau, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte la complexité, et que quand on agit au niveau de ces phénomènes très complexes, là en particulier de la faune sauvage, tout, on va avoir forcément des effets. Si on tue le moustique, on risque d'avoir des oiseaux qui disparaissent. Si les oiseaux disparaissent, on aura aussi des mammifères atteints, et des cultures, et des... Bon, ainsi de suite. Et puis il y a des espèces peut-être encore plus dangereuses qui peuvent prendre la place de celles qu'on élimine. Donc c'est des expériences de changer la nature. Dans ce cas-là, l'homme, dans le cas du transhumanisme, sans prendre en compte la complexité, moi c'est ça que je trouve le plus grave. C'est-à-dire qu'en dehors de l'effet qu'on espère, on peut éventuellement l'avoir, mais on peut avoir plein d'autres effets auxquels on n'a pas pensé. Donc on joue à l'apprenti sorcier tout le temps.
C'est là où c'est intéressant de vous écouter, hein, en tant que lanceur d'alerte, et je sais que vous avez une association sans doute qui vous tient à cœur, vous êtes en train de monter, peut-être de présider autour des lanceurs d'alerte, hein, multiples.
Ah oui, les associations, oui, il y en a. Non, on a monté une maison des lanceurs d'alerte, dont j'ai l'honneur d'être co-président. Cette maison des lanceurs d'alerte, elle vient d'être créée, et elle a pour but d'aider je rappelle les lanceurs d'alerte, c'est des gens qui, alors c'est souvent des chercheurs, mais pas forcément, ça peut être des médecins, mais ça peut être aussi des simples citoyens qui repèrent, ou des ouvriers dans une usine, qui repèrent quelque chose dans le fonctionnement qui va polluer l'environnement, par exemple, ou bien du côté de la finance, qui repère des mouvements de capitaux qui ruinent les pays en allant vers les paradis fiscaux, bon, des choses comme ça. Donc ces lanceurs d'alerte, ils existent, ils sont maintenant reconnus depuis quelques années, il y a une loi en France depuis 5-6 ans, qui théoriquement les protège, mais pas très fort, puisque cette loi, par exemple, elle dit qu'ils doivent d'abord, quand ils sont dans une entreprise, ils doivent d'abord lancer l'alerte auprès de leur chef. Bon, c'est évident que c'est la meilleure façon de bloquer l'alerte. Or, nous pensons que l'alerte est quelque chose de très important. C'est, dans un pays démocratique, c'est une façon, finalement, pour la société, de profiter de la position de gens qui sont des sentinelles, qui ne l'ont pas cherché, mais qui ont repéré quelque chose et qui vont le faire savoir. Et on peut ensuite, d'une part, étudier cette alerte, pour voir si elle est sérieuse, si elle est grave, et puis surtout ne pas contrer le lanceur d'alerte, c'est-à-dire ne pas systématiquement l'empêcher de parler, de le mettre à la porte. Enfin, il y a eu des suicides hein, de lanceurs d'alerte, c'est très grave. Donc la maison des lanceurs d'alerte, elle amènerait un soutien, législatif, parce que les gens connaissent pas la loi souvent. Elle amènerait un soutien financier, un soutien psychologique à ces personnes qui sont indispensables dans une société qui va à l'aventure en développant des technologies dans tous les sens, beaucoup plus vite que le temps qu'il faudrait pour vérifier l'innocuité.
On va remercier Fabrice Jacques Testard d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous, Jacques Testard, dans C'est votre jour de science. On rappelle que vous êtes biologiste et on rappelle également le titre d'un de vos nombreux ouvrages qui faisait donc référence au thème de cette semaine avec vous, Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes, publié dernièrement aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Jacques Testard.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt,
beaucoup.
Au revoir. Merci,
au revoir.
C'est votre jour de science. Dans l'actu.
L'actualité insolite, Fabrice.
Ou pas, hein, c'est compliqué toujours, on se le dit hein, tous les deux, parce que on ne sait pas quel va être le thème développé par l'autre, de trouver de l'insolite. Moi, c'est complètement basique, la question toujours hein, une que je vous pose au départ, est-ce que vous
non.
ronflez? Eh oui, non, mais oui, même si ça manque
question.
Un peu de glamour, est-ce que vous ronflez?
Non, je ne ronfle pas, je suis
bon,
pas comme vous, Fabrice.
Deuxième question.
On n'est pas tous comme vous.
Mais
ouais.
Non, mais deuxième question, est-ce que vous trouvez que vous avez une bonne mémoire?
Ça dépend pourquoi.
C'est moins engageant, ça,
oui.
Déjà. Ouais. En fait, on vient d'apprendre que les deux sont sans doute corrélés. Et oui, parce que ronfler pourrait avoir d'autres conséquences qu'empêcher son conjoint de dormir, et notamment entraîner des problèmes de mémorisation importants. Techniquement, l'une des principales causes du ronflement est en effet l'apnée du sommeil, un mécanisme qui entraîne une contraction de la gorge avec un blocage des voies respiratoires, privant momentanément le cerveau d'oxygène. Et les experts pensent que cela pourrait détruire la matière grise dans la partie du cerveau qui enregistre les souvenirs. Concrètement, les personnes qui ronflent ont donc beaucoup plus de mal que les autres à se rappeler des détails spécifiques du passé, alors par exemple les noms de leurs anciens collègues, les adresses de leur enfance, les vieux numéros de téléphone, et tout ça à cause du ronflement.
Fabrice, je sais que vous ronflez, mais je
oui.
sais que vous ne fumez pas.
Non.
Puisque vous êtes un grand sportif, vous faites
J'étais.
Votre footing tous les samedis matins pour
je
être
faisais.
En forme le samedi après-midi quand vous arrivez dans nos studios pour C'est votre jour de science. Mais savez-vous ce qu'est Smokiten?
Moi oui,
Smokiten.
Mais pour pas
vous connaissez ?
Oui, mais pour pas spolier, je ne dirais pas.
C'est un jeu vidéo pour arrêter de fumer. C'est ça?
Mais bien sûr.
Ah, très bien. C'est un petit studio de création lyonnais d'Owino qui croit avoir la solution. Un jeu vidéo sur smartphone qui permet de se défouler ou au contraire de déstresser au plus dur du sevrage. Baptisé donc Smokiten, le jeu met en scène un chat qui a arrêté de fumer et se trouve naufragé sur une île sans tabac à proximité. Le joueur va devoir le divertir pendant 222 jours, yoga, montgolfière ou même boxe, en cas d'accès de colère. Et au fil de ces mini-jeux, il engrange des pièces en or qui lui permettent d'améliorer les conditions de vie de l'animal sur cette île désolée. Une mise en abîme au cours de laquelle le joueur fumeur va pouvoir évacuer ses propres envies d'en rallumer une. Pour le développement, Dowino s'est associé au centre IG, plateforme de prévention des cancers du cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Smokiten, qui se présente comme le premier jeu vidéo communautaire sur smartphone, permet en outre de faire appel à une communauté de joueurs ou de proches en cas de passage à vide. C'est une super idée quand même.
Ouais, c'est malin comme tout. Par rapport à la technologie, on en parlait dans cette émission. Pour le coup, là, elle aura du bon, vraisemblablement.
C'est votre jour de science. Ça se passe chez nous.
Demain dimanche, on accueille qui au Parc Galéa?
Et bien alors, demain dimanche à 15h, c'est aussi une autre conférence extrêmement attendue. Il y en a pas mal qui l'avaient coché dès le départ. C'est Pablo Servigne. Alors, on le recevra d'ailleurs dans notre émission. C'est un des spécialistes hein, de la transition écologique. L'inventeur français du concept, qui commence vraiment à être très connu, de collapsologie. Hein, lié à l'effondrement des civilisations industrielles, c'est, on l'a dit, bien une des personnes les plus écoutées sur la question de la Terre demain, et ça se passe à Galéa à 15h.
Merci Fabrice, à demain, et nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre jour de science. D'ici là, on réécoute l'émission bien sûr à volonté, en podcast sur Bleu RCFM, et un grand merci à Doumé Mourati qui était à la technique.
Doumé Mourati qui ronfle.
et qui peut-être jouera à ce jeu vidéo.
Les deux à la fois.
Je crois qu'il fume. Un petit peu, ouais. Voilà.
Un petit pas marié,
merci, Loumet. Et à la semaine prochaine, Fabrice. Ciao.
Ciao.